9h-10h, c'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour et bon dimanche. Faut-il avoir peur du variant indien devenu majoritaire en Inde et qui progresse en Grande-Bretagne? Olivier Schwartz vient de publier avec son équipe de l'Institut Pasteur une étude de ce variant. Il est mon premier invité ce matin. Je recevrai ensuite le biologiste Étienne Danchin pour son livre « L'hérédité comme on ne vous l'a jamais raconté ». En effet, les raisons qu'on a de ressembler à nos parents ou à nos enfants sont beaucoup plus nombreuses que l'on ne croit. Et l'on terminera l'émission avec Hector Obalk, le premier critique d'art à faire l'Olympia. Bonjour Olivier Schwartz.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Vous êtes épidémiologiste, mais surtout c'est votre équipe à l'Institut Pasteur qui vient de publier une étude sur ce variant indien qui préoccupe l'OMS et inquiète tant de monde. On ne l'appelle plus le variant indien d'ailleurs. Comment faut-il l'appeler à présent ?
Alors, il faut l'appeler le variant Delta. L'OMS a émis de nouvelles recommandations pour éviter de stigmatiser les pays dans lesquels les virus ont été identifiés pour la première fois. Et donc, cela concerne tous les variants. Le variant anglais s'appelle maintenant variant Alpha, par exemple, et le variant indien, donc, s'appelle variant Delta.
Comment l'avez-vous étudié, ce variant Delta ? Vous l'avez isolé sur un patient, hein ?
Oui, tout à fait. En fait, on a collaboré avec différentes équipes, des cliniciens, des virologistes, de l'hôpital Georges Pompidou en particulier. Et c'est eux qui ont recueilli ce patient. Donc, c'était un voyageur qui rentrait d'Inde et qui est tombé malade une dizaine de jours après son retour d'Inde. Et comme on avait une étude en cours avec eux pour isoler le virus à partir de nombreux échantillons de découvillonnage nasopharyngé, donc c'est ce qu'on a fait. On a isolé très rapidement le virus et donc on a pu d'abord le séquencer pour s'assurer que c'était effectivement le variant dit indien, le variant Delta, il ne faut pas que je me trompe. Et en fait, cette lignée de variants dit indien, en fait, il y a déjà trois soulignées. Il y a une des soulignées, donc qui s'appelle B1617.2, et donc Delta maintenant, qui est celle qui a pris le dessus en Inde, et d'ailleurs actuellement également en Angleterre, et c'est celle-ci que nous avons étudiée.
Alors évidemment, ce qu'on veut tous savoir, c'est est-ce qu'il est plus contagieux et est-ce qu'il est plus létal ?
Alors, donc, ce sont des questions importantes. Vous m'avez présenté en tant qu'épidémiologiste, mais je ne suis pas épidémiologiste, je suis virologiste. Donc, nous étudions, nous, au laboratoire, les capacités de multiplication des virus en éprouvette, dans des modèles de culture cellulaire, comment le système immunitaire réagit. Et l'objectif, c'est de comprendre, effectivement, quand un virus ou un variant est caractérisé d'un point de vue épidémiologique, comme se propage en plus, et c'est le cas pour ce variant Delta, nous, on essaye de comprendre ce qui se passe d'un point de vue cellulaire ou virologique. Alors, les données épidémiologiques, pour l'instant, sont vraiment limitées. Et donc, pour répondre brièvement à votre question, il ne semble pas, à ma connaissance, être plus létal que les variants précédents.
Et est-ce qu'il est capable de recontaminer quelqu'un qui a déjà été atteint par le Covid et qui était censé être immunisé ? Ça, c'est évidemment la question que tout le monde se pose en ce moment.
Oui, c'est effectivement une question très importante. C'est quelle est la durée de la protection conférée soit par une infection naturelle, soit par une vaccination ? Alors, ce qu'on sait, c'est que, et donc là, il y a plusieurs études qui ont été faites, et nous, on a participé à une étude, par exemple, faite par les hôpitaux de Strasbourg. On sait qu'au bout d'un an, par exemple, c'est une étude qui a été faite chez des personnels soignants, sur plusieurs centaines de personnels soignants, eh bien, le taux d'anticorps dans le sang est toujours important. Il y a eu ce qu'on appelle une demi-vie, c'est-à-dire la décroissance du taux d'anticorps est assez lente. Probablement, il faut un ou deux ans, même deux ans, pour qu'il y ait deux fois moins d'anticorps. Donc, ça veut dire que ce taux diminue. Et en revanche, donc nous, on a fait des tests, on a pris le sang de ces patients, donc convalescents depuis très longtemps, donc qui ont déjà eu le Covid. Et ce qu'on a pu voir, c'est que, eh bien, ce sang est toujours capable de neutraliser le variant alpha ou le variant dit indien. Mais il faut des concentrations d'anticorps plus importantes, 3 à 6 fois plus importantes. Donc, comme ces taux d'anticorps ont tendance à diminuer au cours du temps, ça veut dire que face à un variant, eh bien, le seuil de non-protection risque d'être atteint plus rapidement qu'avec un variant moins agressif.
Évidemment, ce qu'on se demande aussi, c'est pour quelqu'un qui a été vacciné, mais ça, on va attendre juste le retour de la pause pour que vous nous répondiez, Olivier Schwartz.
Europe 1,
C'est arrivé demain.
Frédéric Taddeï.
Nous sommes avec Olivier Schwartz, qui est virologiste et dont l'équipe à l'Institut Pasteur vient de publier une étude sur le variant indien, qu'on n'appelle plus le variant indien, qu'on appelle désormais le variant Delta. Alors évidemment, c'est la question qui me brûlait les lèvres. Quelqu'un qui a été vacciné, quelqu'un qui a reçu ses deux doses et qui est confronté à ce variant Delta, qu'est-ce qui lui risque de lui arriver ?
Alors donc, c'est effectivement une question très importante. La protection par les vaccins actuels est-elle suffisante contre ces variants plus agressifs ou qui semblent échapper d'ailleurs en partie aux anticorps, que ce soit des anticorps monoclonaux, donc des anticorps que l'on purifie, ou des sérums de patients convalescents. Donc là, nous nous sommes également intéressés donc à la capacité neutralisante du sang de personnes qui avaient été vaccinés, soit avec le vaccin Pfizer, soit avec le vaccin AstraZeneca. Donc avec le vaccin Pfizer, on a pu étudier des personnes qui avaient déjà reçu leurs deux doses. Et donc, la situation ressemble à celle qu'on voit chez les convalescents au long terme. Il y a des anticorps qui sont générés, bien sûr, et ils sont capables de neutraliser ce variant avec une efficacité moins importante. Ça veut dire qu'il faut là encore des concentrations d'anticorps dans le sang 3 à 6 fois plus importantes. Donc, la situation est exactement la même que chez les personnes qui ont eu le Covid. Au cours du temps, la vaccination génère des anticorps, mais ces anticorps vont diminuer. Et donc, il est probable que la protection contre ce type de variant sera de durée peut-être inférieure.
Il va falloir prendre une troisième dose, quelque chose comme ça ?
Peut-être, pourquoi pas, c'est trop tôt pour le dire. Il est important de noter que, en fait, la concentration d'anticorps dans le sang, c'est un très bon marqueur de la protection contre une nouvelle infection. On sait par exemple que si on a eu un Covid, au bout d'un an, eh bien, on a 97% de chances de ne pas être recontaminé. Ça, c'est la protection qui est conférée par l'immunité naturelle. C'est un peu le même niveau avec le vaccin Pfizer. Pour le vaccin AstraZeneca, la protection est également très bonne. Pour l'instant, on a juste pu tester des personnes qui avaient reçu une seule dose du vaccin AstraZeneca parce qu'elle a commencé plus tard en France et on a eu accès pour l'instant à des sérums donc de personnes qui ont reçu qu'une seule dose. Et là, une seule dose, en revanche, ce n'est pas assez pour protéger contre ni le variant sud-africain, qui je crois s'appelle Beta, ni contre le variant indien, donc le variant Delta. Donc, une seule dose n'est clairement pas suffisante. Et donc, ça pose bien sûr la question de faut-il accélérer la prise de la seconde dose ? C'est certainement le cas. Et il y a une étude qui est sortie dans le Lancet, donc c'est d'une équipe anglaise qui arrive aux mêmes conclusions que celles auxquelles nous sommes arrivés.
Ce variant est devenu largement majoritaire en Inde, où il a été identifié pour la première fois en décembre. C'est assez récent. Hein. C'est lui la cause de la reprise de l'épidémie là-bas, fin mars, avec un pic à 400 000 contaminations en une seule journée. C'était le 9 mai, c'est un peu redescendu depuis. Enfin, c'est même beaucoup redescendu. Et puis, 4 000 morts par jour, quand même, au début du mois de mai. Tout ça, c'est la faute de ce variant Delta ?
Probablement, en grande partie. Puisqu'il n'a pas été séquencé les virus responsables n'ont pas été séquencés encore une fois à grande échelle, mais les séquences qui ont été faites montrent qu'il est présent dans 80% des cas. Et effectivement, en Inde, le pic était de 400 000 personnes contaminées, comme vous l'avez rappelé, début mai. Le pic, là, on est en descente, mais on est encore hier, par exemple, à 135 000 cas par jour et plus de 3 000 morts hier.
Bon, ils sont très très nombreux en Inde et ils sont très peu vaccinés, malheureusement. Voilà. Au Royaume-Uni, il représentait plus de 20% des virus séquencés entre le 12 et le 19 mai. Il a progressé depuis ?
Oui, tout à fait. Les chiffres donnés hier par Public Health England, qui est l'équivalent de Santé publique France, ici, parlent de 75% des virus séquencés qui semblent être ce variant Delta. Et là aussi, le pic épidémique est passé. On était à 30 000 cas il y a quelques semaines. Et là, on n'est plus qu'à 5 000 cas. Ceci dit, il y a une augmentation. Donc, on est passé de 3 000-4 000 cas par jour en Angleterre à 5 000 cas. Donc, il y a une petite augmentation.
Dans un pays qui, lui, une population qui est relativement immune, parce qu'il y a eu beaucoup de vaccinations.
Tout à fait. Mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont reçu qu'une dose. Et donc, c'est peut-être ces personnes qui sont le plus à risque d'attraper ou d'être contaminé par ce variant Delta.
Alors Olivier Schwartz, en France, on en est où nous ?
Alors, en France, à ma connaissance, les chiffres datent d'il y a 2 semaines. On parle de quelques dizaines de cas, 80 cas de variants Delta séquencés. Donc, cela reste tout à fait raisonnable. Donc, il y a beaucoup de cas, ce sont des voyageurs qui rentrent d'Inde. Et en Angleterre, c'est pareil, c'était la communauté indienne. Il y a une forte communauté indienne. Et donc, le virus a circulé chez ces personnes en Angleterre qui n'étaient pas vaccinées ou peu vaccinés. En France, on isole, on séquence moins qu'en Angleterre, donc c'est pour ça peut-être aussi qu'on en a identifié moins, mais on connaît le pourcentage relatif de chaque virus lorsqu'on fait des séquençages. Et donc, il y a très peu de cas autochtones. Il y en a quelques-uns qui ont été détectés chez des personnes qui n'ont pas voyagé. Donc, le virus probablement se propage à très bas bruit et ça a l'air d'être contrôlé.
Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Vacciner et surtout prendre une deuxième dose le plus rapidement possible.
Voilà, donc je pense qu'il faut respecter le calendrier vaccinal. Il ne faut pas attendre si on a reçu qu'une dose. Il faut bien sûr prévoir de recevoir sa deuxième dose. Donc ça, ce sont il faut suivre les recommandations de la Haute Autorité de Santé en ce qui concerne les vaccinations.
Merci Olivier Schwartz d'être venu sur Europe 1 pour nous expliquer tout ça. Et je rappelle donc que votre étude, on peut la trouver sur le site de l'Institut Pasteur, votre étude sur ce variant indien qu'on appelle désormais le variant Delta. On se retrouve juste après une pause avec Étienne Danchin, on va parler d'hérédité.
Europe 1, c'est arrivé demain. Frédéric Tadéhi.
Étienne Danchin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, spécialiste de l'évolution, directeur de recherche émérite au CNRS et vous publiez « L'hérédité comme on ne vous l'a jamais raconté » chez Humaine Science. Un livre tout à fait étonnant qui commence d'ailleurs par un article paru dans Nature Neurosciences. Vous racontez que 2 chercheurs ont conditionné des souris à associer une odeur bénigne à une sensation désagréable. Et ils ont constaté que le souvenir de cette expérience perdurera tout au long de l'existence des souris qu'ils ont étudiées et sera transmis à leurs enfants, puis à leurs petits-enfants, alors même que ceux-ci n'avaient jamais interagi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Bien, ça veut dire que l'hérédité, c'est plus compliqué qu'on ne le pensait et que l'on peut effectivement transmettre des choses que l'on a développées, qu'on a construites au cours de sa vie. On a appris, on a acquis, dans le cas de l'exemple de ces souris, on a appris que telle odeur est associée à un danger. Et donc, chaque fois qu'on ressent cette odeur dans l'avenir, pour le reste de sa vie, eh bien, on a une tendance à avoir peur. Et c'est quelque chose de connu depuis longtemps, hein, ça s'appelle le conditionnement. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont découvert que cette peur était transmise aussi à la descendance, malgré l'absence de tout contact entre les parents et les enfants. Et ils ont pu démontrer par différentes techniques que cette transmission se faisait par les gamètes, c'est-à-dire par les spermatozoïdes ou les ovules, aussi bien par les mâles que par les femelles.
Un traumatisme, dit-on, peut se transmettre, un viol ou la perte d'un enfant, peut se transmettre à ses descendants qui pourtant ignorent que leur aïeul a subi un viol ou la perte d'un enfant. Est-ce que vous le confirmez ?
Alors oui, en effet, quoi, je confirme, je ne sais pas dans le cas présent, mais il y a plein d'autres cas qui ont été étudiés, ou de stress ou environnementaux ou de traumatismes, comme le cas des souris dont je viens de parler, qui sont effectivement transmis d'une certaine manière à la descendance. Et donc oui, il est tout à fait possible que les enfants, même n'ayant jamais entendu parler de l'existence d'un traumatisme fort dans un ancêtre récent, puissent en avoir quelques traces qui aient été transmises par leurs parents, leurs grands-parents, selon le genre de situation.
Alors pour que ce soit bien clair, Étienne Danchin, l'hérédité, ce sont les différentes informations qui peuvent être transmises entre générations et qui affectent la ressemblance entre les parents et les enfants. On pense généralement que ça se réduit à la seule transmission des gènes. Ça n'est pas le cas donc, hein.
Oui, donc clairement, c'est l'objectif de ce livre, c'est d'illustrer que la vision la plus classique, aussi bien dans le grand public que chez les chercheurs, surtout les chercheurs en évolution, cette vision classique qui est de considérer que l'information qui permet qui est transmise et qui permet et qui construit cette ressemblance par enfant, l'idée classique, c'est que c'est l'information qui est inscrite dans la séquence de l'ADN et rien d'autre. Et c'est là où c'est sur le « et rien d'autre » que quelque chose qui se pose un problème, c'est qu'on se rend compte aujourd'hui, depuis en gros une bonne vingtaine d'années, qu'il y a énormément d'autres processus d'informations qui sont transmises des parents aux enfants et qui ne sont pas inscrits dans la séquence de l'ADN et donc ne relèvent de ce que j'appelle l'hérédité non génétique.
Il y a par exemple des traits acquis qui peuvent se transmettre. Les parents poules, écrivez-vous, donnent des enfants qui deviendront plus tard des parents poules. Et les parents négligents ou maltraitants donnent souvent des enfants qui deviendront à leur tour des parents négligents ou maltraitants.
C'est effectivement le cas, et ça c'était démontré chez des souris, chez les rongeurs en général, et on connaît les mécanismes, on a pu montrer qu'en fait il se produit des changements dans le cerveau des individus quand les parents négligent leurs enfants, et donc les enfants quand ils deviennent adultes, les changements qui se sont produits chez les enfants vont les conduire à se comporter de la même manière que leurs parents quand ils deviennent adultes, et on fait comme ça des lignées de parents négligents et des lignées de parents attentifs, parents poules, et avec donc des conséquences sur la capacité de reproduction, la survie des enfants. Enfants, etc. Et ça n'est pas sans rappeler le cas de chez les humains, hein, où on sait bien qu'il y a des familles qui sont plutôt négligentes et maltraitantes et des familles qui sont plutôt positives. Et donc, l'exemple des rongeurs est étudié pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui conduisent à cette ressemblance parent-enfant pour pouvoir essayer de rompre ce cercle vicieux de transmission.
Vous parlez également des effets héréditaires de la pollution. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ?
Alors ça, c'est un chercheur américain, Michael Skinner, qui a mis en évidence, c'était un des premiers à mettre en évidence ce genre de choses, que lorsque l'on traitait des femelles avec des molécules à des très faibles doses, des femelles gestantes avec des molécules qu'on utilise classiquement dans l'agriculture, dans l'industrie du vin et choses comme ça, qui sont appelées des perturbateurs endocriniens, parce qu'ils imitent certaines molécules, certaines hormones sexuelles humaines. Eh bien, si on fait cela, on va avoir des conséquences sur le développement de leurs petits qui sont en train de se développer. Mais ces conséquences, c'est cela où était la chose vraiment qui était choquante à l'époque, c'est que cette conséquence a été transmise aux descendants et ainsi de suite jusqu'aux arrière-petits-enfants. Les chercheurs ne sont pas allés plus loin, mais ils sont allés jusqu'aux arrière-petits-enfants. Et donc, on retrouvait, et dans le cas présent, c'était des questions de manque de baisse de fertilité très forte, de défauts anatomiques importants, qui conduisaient très souvent à des infertilités chez les mâles. C'était surtout du côté des mâles dans cet exemple-là. Et donc, effectivement, lorsque l'on subit un effet de pollution, non seulement ça peut affecter notre vie, mais ça peut affecter la vie de nos descendants pendant 3 voire 4 générations suivantes.
Alors, est-ce que c'est possible également chez les humains ? Ben, on fait une pause, Étienne Danchin, et puis vous répondrez à ma question juste après.
9h, 10h, c'est arrivé demain. Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Nous sommes toujours avec le biologiste Étienne Danchin qui publie « L'hérédité comme on ne vous l'a jamais raconté » chez Humaine Science. Les effets des pesticides visibles sur 4 générations chez les rats, venez de nous l'expliquer, mais est-ce que la chute du nombre de spermatozoïdes chez les humains, dont on a beaucoup parlé au cours des dernières décennies, est-ce que ça pourrait être la même chose ? Un effet héréditaire de la pollution ?
La question est ouverte et est certainement pertinente dans la mesure où plusieurs chercheurs se sont posé la question et on peut s'empêcher de faire le parallèle entre le développement de notre agriculture et de nos méthodes d'utilisation de pesticides. Il n'y a pas que l'agriculture, hein, des molécules comme les molécules de bisphénol A qu'on met dans les plastiques de nos bouteilles de plastique pour leur donner des propriétés physiques qui nous intéressent, peuvent diffuser un peu dans l'eau qui est transportée ou les liquides et ont les mêmes effets. Et donc, il y a un parallèle important entre le développement de l'utilisation de ce genre de produits et la diminution de la fertilité humaine. Alors bien sûr, une corrélation ne veut pas dire une relation de cause à effet, et donc il faut le démontrer. Et justement, ce genre d'études comme celles qui ont été faites chez les rats permettent de montrer que si on injecte effectivement à certains rats pendant la gestation ces molécules, et à d'autres on injecte seulement de l'eau, eh bien on voit effectivement qu'il y a une différence entre de l'eau et que dans ceux qui ont reçu la molécule en question, eh bien pendant plusieurs générations, il va y avoir des défauts de fertilité. Par exemple, sur cette lignée-là.
Alors, parmi les hérédités non génétiques dont vous parlez dans votre livre, il y a l'hérédité culturelle. La culture, ce sont des traits que l'on a appris d'autres individus, les traditions, par exemple. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples ?
Au niveau historique, on a pendant très longtemps pensé que la culture, c'était quelque chose de propre à l'humain. Donc, en conséquence, on a eu très peu on avait des définitions de la culture qui étaient totalement inadaptées on pouvait pas les transposer à l'étude de l'animal. Mais petit à petit, certaines personnes, dont moi, on s'est posé la question, mais qu'est-ce que c'est vraiment l'essence de la culture ? Qu'est-ce qui permet de dire que ça, c'est un processus culturel plutôt qu'autre chose ? Eh bien, comme vous l'avez dit, c'est justement la chose importante, c'est qu'on l'a appris des autres. C'est quelque chose qu'on a appris socialement, c'est-à-dire appris à partir des autres. La langue est un exemple typique. Et donc, on s'est rendu compte, une fois qu'on a adopté ce genre de vision, que des phénomènes de tradition culturelle existaient chez un grand nombre d'animaux, de vertébrés. Et récemment, nous avons démontré avec mon équipe que il y avait de grandes chances que des traits comme les préférences sexuelles des femelles pouvaient être transmises de génération en génération par voie culturelle chez la drosophile, la mouche du fruit. Vous savez, ce tout petit moucheron qui fait à peine 1 mm de long, qui est dans nos coupes de fruits à l'automne, eh bien, ces petits moucherons sont capables de seraient capables, on n'a pas encore complètement démontré qu'ils le font dans la nature, mais on a démontré qu'ils ont les capacités de le faire, en tout cas. Leurs préférences sexuelles pourraient être transmises par voie culturelle. Ce qui, pour moi, j'ai mis du temps à accepter cette idée-là, j'avoue. Hein.
Mais le fait que la culture se transmette par les parents, ça ne nous paraît pas totalement invraisemblable. Les parents nous éduquent, donc il est logique qu'ils aient de l'influence sur nous. Mais est-ce que ça va jusqu'au trait physique ?
Ça va jusqu'au trait physique, effectivement, parce que, entre autres, l'exemple que je prends toujours, c'est l'exemple des habitudes alimentaires. Il n'y a rien de plus culturellement transmis que nos habitudes alimentaires. Dans certaines familles, on mangera plutôt du couscous, selon les origines, si on est des Pieds-Noirs, par exemple, ou on va manger plutôt de la choucroute si on vient d'Alsace, etc. On a des habitudes alimentaires qui sont très marquées. Et cette transmission-là, bien sûr, elle est de nature culturelle. Hein. On a appris à cuisiner de telle manière, telle chose, etc. Un autre exemple que je prends souvent, c'est l'exemple, on ne mange pas de sauterelles dans nos pays. Mais si mes parents m'avaient appris à manger des sauterelles, et m'avaient expliqué comment les cuisiner et comment c'est bon, etc., aujourd'hui, je trouverais ça tout à fait normal. Alors que là, ne l'ayant pas appris tout jeune, eh bien, je trouve ça dégoûtant. Donc, clairement, ce qui est très important derrière cet apprentissage des habitudes alimentaires, c'est qu'elles vont influencer énormément notre physiologie générale, notre état de santé général. Et donc, par exemple, si on a une nourriture trop riche en gras, trop riche en sucre, on va devenir obèse et donc on va avoir un physique qui sera affecté de la sorte. Donc, effectivement, la culture, le phénomène culturel n'a pas seulement une influence sur la transmission des comportements, mais il peut aussi transmettre des aspects phénotypiques, hein, des aspects d'apparence, des états de santé de génération en génération.
Au fond, la morale de votre livre, Étienne Danchin, c'est que l'hérédité génétique est peu propice pour s'adapter à des changements en temps réel. Ça met très longtemps, au fond, avant d'affecter notre séquence ADN. C'est donc l'hérédité non génétique qui est impliquée dans les premières phases de l'adaptation aux changements dans tous les domaines, en fait.
Oui, c'est une très bonne formulation. C'est exactement ça. C'est que dans la vision actuelle, la plus classique, hein, admise par tout le monde, il y a deux grands domaines d'adaptation, hein, soit à très court terme, il se met à faire chaud, et bien la première adaptation, c'est que j'enlève mes habits. Deuxième adaptation, il se met à faire froid, ben je vais m'habiller, mais je vais aussi changer. Il y a des choses qui vont changer dans mon organisme pour s'adapter à un climat froid ou un climat chaud. Ça, c'est le très court terme. Et puis, il y a aussi le mécanisme d'adaptation par les gènes, hein, donc mutation et sélection naturelle, qui va conduire à une adaptation génétique. Et ça, c'est sur le très long terme. On parle de milliers, voire de millions de générations selon les types de traits. Mais ce qui posait problème dans cette version-là, c'est qu'il n'existe pas de mécanisme pour une adaptation à moyen terme, intermédiaire entre la fraction de seconde à la seconde ou à l'heure, jusqu'à des millions de générations. Et c'est justement là-dedans, dans cette fenêtre-là, que intervient l'hérédité non génétique, qui va permettre d'avoir des mécanismes d'adaptation plus rapides que le génétique, mais sensiblement suffisamment long pour être transmis sur 1, 2, 10, 100, 1000 générations, mais selon le type de mécanisme appliqué.
Étienne Danchin, si l'on vous suit dans tous vos raisonnements, tous nos actes risquent d'affecter la vie de nos enfants ou de nos petits-enfants. Tout ce que l'on fait aujourd'hui.
Alors, la réponse est... Je ne saurais pas dire sur le tout, mais beaucoup de nos actes, effectivement, peuvent influencer nos enfants, l'état de santé de nos enfants, même indépendamment, de notre influence sur eux. Imaginons que chez l'humain, on fasse une expérience avec des enfants qui sont conçus in vitro et après implémentés dans l'utérus d'une autre personne, hein, et qui sont élevés par une autre personne qui ne voit jamais leurs parents génétiques, eh bien leurs parents génétiques peuvent effectivement leur transmettre quelque chose, leur transmettre des choses qui sont liées à leur comportement à eux, leur hygiène de vie propre. Si ils sont devenus dépendants de l'alcool, par exemple, ou d'autres drogues, eh bien ils peuvent très bien transmettre une sensibilité, une tendance forte à aimer l'alcool ou ces autres drogues à leurs enfants, même si ce sont pas eux qui les ont élevés, etc.
Et leur peur des araignées aussi. Et leur peur des araignées aussi.
Alors, leur peur des araignées aussi, bien entendu, ou différentes peurs, comme on a vu au début de cette interview, où on discutait de l'association entre quelque chose qui peut être bénin ou dangereux, mais les araignées, c'est pas très dangereux, et certaines peurs irraisonnées, hein, certaines phobies que l'on peut espérer soigner, que maintenant qu'on connaît un peu mieux les mécanismes, on peut imaginer soigner ces phobies qui sont quelquefois très handicapantes.
Merci Étienne Danchin. Je renvoie à votre livre, hein, L'hérédité comme on ne vous l'a jamais raconté. Ça vient de paraître chez Humaine Science. On se retrouve dans un instant avec le critique d'art Hector Obal.
9h-10h, c'est arrivé demain.
Avec Frédéric Taddeï sur Europe 1.
Bonjour Hector Balck.
Bonjour Frédéric.
Vous êtes l'homme qui a amené la critique d'art à la télévision sur Paris Première, Canal+, puis Arte, et vous serez à l'Olympia le dimanche 13 juin pour raconter toute l'histoire de la peinture en moins de 2 heures. Vous l'avez déjà fait au Théâtre de l'Atelier pendant plusieurs mois. Au total, 25 000 spectateurs sont venus. Pour vous, c'est une conférence ou c'est un spectacle ?
Ah bah c'est, oui, c'est vrai, c'est un mélange, c'est un stand-up. Il y a quand même 3 musiciens, c'est un son et lumière, je dirais. Voilà, avec une personne qui n'a pas un texte par cœur, mais qui parle de manière improvisée, syntaxiquement, aux gens pour que je sois sûr que le message passe.
Derrière vous, il y a quantité d'œuvres comme on ne les a jamais vues. Hein.
Ouais. D'abord en quantité, puisqu'il va y avoir 4000 tableaux qui défilent dans des murs de dingue, dans lesquels on ne reconnaît rien sinon des couleurs générales à chaque époque. Et puis en détail, parce que je montre des détails, parce que l'important dans la peinture, c'est de montrer les détails et de comparer les mains et les visages.
Hector Balck, votre histoire de la peinture en moins de 2 heures commence avec Giotto au XIVe siècle. Pourquoi pas avec les grottes de Lascaux ou les fresques romaines ? On a découvert des magnifiques dans les ruines de Pompéi.
C'est vrai, mais le tableau, ça commence qu'au XIVe siècle. Ça commence qu'avec les primitifs italiens. J'appelle tableau le fait que c'est un rectangle qui n'est pas lié à l'architecture, qui est séparé de l'architecture, et qui fait que la peinture s'autonomise par rapport à l'architecture. Quand vous êtes à Lascaux, vous ne dites pas « Tiens, cette fresque, je la mettrais mieux à l'entrée à gauche plutôt qu'à droite. » Alors qu'on peut faire ce qu'on veut. C'est ça, et ça change tout. À partir du moment où le tableau il a son autonomie, ça veut donc dire que c'est un espace à lui tout seul. Ça veut donc dire que tout d'un coup, vous pouvez avoir un petit truc qui fait 40 cm sur 60, et puis vous mettez les yeux devant, et puis c'est la mer qui s'étend. Ce qui n'arrive pas devant une décoration murale.
Vous estimez qu'il y a dans l'histoire de la peinture une 60aine de génies incontournables. Ouais. En moins de 2 heures, ça veut dire qu'ils ont droit à 2 minutes chacun, environ.
Donc superficialité assurée, c'est ça que vous voulez dire. C'est ça, c'est là où vous voulez en venir. En fait, je pense que je mets même pas les... Il y a même plein de génies dont je parle même pas, sur lesquels je fais l'impasse. C'est juste qu'en fait, je pourrais le raconter en 20 minutes, moi, toute l'histoire de la peinture. C'est-à-dire que c'est pas une question de nombre d'artistes, c'est une question d'époque. Moi, j'identifie, si je dois vous le résumer encore plus vite que 20 minutes, j'identifie 3 révolutions. En fait, la peinture, elle commence avec un progrès technique. Ça s'appelle la Renaissance. La Renaissance, pendant 1 siècle et demi, 2 siècles même, entre 1400 et 1600, c'est le progrès qui fait qu'on va s'y connaître mieux en perspective, qu'on va s'y connaître mieux en anatomie, et surtout en rendu des textures et tout ça. Puis une fois qu'on sait tout faire, révolution maniériste, et bien on va jouer avec ses codes, on va inventer des formes qui n'existent pas, des tissus qui n'existent pas, déhancher les personnages pour qu'ils soient plus beaux que beaux, etc. Ça, c'est la première révolution maniériste. Deuxième révolution, on va dire réaliste, c'est celle de Caravage. Tout d'un coup, Caravage dit « Vos trucs maniéristes, c'est maniéré. Moi, je sais ce que c'est que la beauté, c'est quand elle est encore plus proche du réel. » C'est aussi simple que ça. Et ce sont dans les nus un peu pédophiliques de Caravage qui vont avoir une influence énorme sur tous les meilleurs artistes du XVIIe siècle, à commencer par le premier Rembrandt, le premier Velázquez, etc. Et puis, troisième révolution et dernière révolution, la révolution permanente, celle qui commence avec l'impressionnisme, c'est-à-dire l'art moderne, celle qui va détruire tout ce que la Renaissance a construit et qui va aller jusqu'au monochrome d'Yves-Klein. Donc, en gros, voilà, je voulais résumer l'histoire de l'art. Oui, ça m'a pris 4 minutes, même pas 2 minutes. Maintenant, pour pas être superficiel, pour que ce soit intéressant à suivre, il faut pas juste citer des noms, faut même peut-être très peu les citer. Faut voir des tableaux, des ensembles de tableaux, des couleurs de siècles, et puis surtout rentrer dans les détails. Et donc, je me permets dans mon show, qui est un peu tous azimuts, ben parfois de rester 7 minutes sur un seul tableau, alors qu'il s'agit de toute l'histoire de l'art. Voilà.
Mais il y a quand même environ 900 artistes répertoriés dans les dictionnaires de la peinture. Ouais. Comment vous faites-vous votre sélection ? Sur quels critères ? Sachant que c'est forcément subjectif.
Ouais. Alors, je suis parti sur une idée subjective, en effet, hein, comme tout le monde. On aime l'art parce qu'on aime tel artiste. Puis après, c'est une forêt dans laquelle on rentre, et d'artiste de proche en proche. Quand on commence à être comme moi, quelqu'un qui devient un archiviste de plus de 1000 artistes, 10 000 œuvres, 400 000 détails que je tourne dans tous les sens, on est un peu obligé de se poser des questions un peu générales, quoi. Comment on fait pour les classer, tous ces gens-là ? Comment on fait pour les sélectionner sans que ce soit arbitraire ? Alors, sur l'arbitraire, j'ai un truc à dire qui est très simple, c'est que je me rends compte que mon choix, c'est pas mon choix. C'est le choix, en fait, de tout amateur d'art qui se respecte. Je veux dire, tout le monde sera d'accord avec moi pour dire que Boucher, c'est inférieur à Watteau. Je veux dire, c'est juste une question de... Je vais choquer en disant ça, mais c'est une question de bon goût, tout simplement. Vous voyez, il y a pas de doute, il y a pas de discussion. Mon avis, c'est celui qui a été entériné par l'histoire, en fait. Et il y a très peu d'exceptions. Là où on se dispute tous, c'est toujours la même chose, c'est sur le XXe siècle. C'est là où on se dispute, c'est là où on n'est pas d'accord, c'est là où on pense que... Moi, je pense que Picabia, ça vaut rien, et d'autres vont penser que ça vaut quelque chose. Bon, mais il n'y a pas de discussion, sinon. Ça, c'est un premier point. Quant aux critères, je suis comme tout le monde, vous voyez, la plupart des artistes sont, évidemment, quand on s'intéresse aux génies, c'est-à-dire, pour moi, j'identifie, vous voyez, parmi les 50 génies, j'identifie une quinzaine de gens encore plus hauts que des génies, vous voyez. Parce que les génies, en effet, je ne sais pas quoi, Georges de la Tour, c'est un génie, il n'y a pas de problème, Géricault aussi... Piero della Francesca aussi. Et puis, vous avez des artistes qui ont quelque chose en plus. C'est même pas que leur tableau soit plus beau. C'est même pas ça. C'est Léonard, c'est Giotto, c'est Van Eyck, c'est Cézanne, c'est Picasso, c'est Velázquez, c'est Caravage, c'est Rembrandt, c'est Vermeer. Qu'est-ce qu'ils ont en plus, ceux-là? Ils ont, j'ai envie de dire, le mot qui leur convient le mieux, c'est même pas qu'ils sont des génies, c'est carrément des démiurges. Alors d'abord, il y a une raison objective, vous voyez. Prenez par exemple Rembrandt ou Picasso. Il a une œuvre gravée ou Dürer. Ces trois artistes-là ont une œuvre gravée qui vaut leur œuvre picturale. C'est comme si d'un coup il y avait deux artistes en un. C'est déjà quelque chose. Après, le deuxième critère de ce côté un peu démiurge, c'est-à-dire créateur d'univers, hein, le mot démiurge, c'est tout simplement que ils sont révolutionnaires. C'est aussi bête que ça. C'est la raison la plus simple. En général, c'est celle que épousent tous les historiens d'art. Ah oui, en quoi t'as été nouveau ? C'est-à-dire que oui, ils ont révolutionné le langage, toutes ces choses-là. Pour moi, c'est pas ce qui compte le plus. Et ce qui compte le plus, c'est, alors là, on en arrive à un point un peu subjectif, c'est que la manière dont... Alors là, c'est une question de touche. Il y a un moment où vous voyez la touche d'un Van Dyck ou d'un Chardin ou d'un Velázquez, il y a quelque chose de magique à voir de manière aussi profondément simultanée l'épaisseur du vernis pictural, en fait, de la matière picturale. Vous vous dites, tiens, c'est juste un geste, c'est juste une petite tachoute, etc. Et puis tout d'un coup, c'est un ongle qui est à peine suggéré sur la fin d'un doigt. Voilà, en gros, c'est ça. Donc, maintenant, il y a d'autres...
Il y a les démiurges, il y a les génies, vous l'avez dit.
Ça alors, fait 50, là... plus 15, ça fait 75, 65.
Oui. Et ensuite, vous mettez... Alors, vous parlez des originaux. C'est quoi les originaux ? C'est un original, c'est pas tout à fait un génie, mais enfin, il est quand même original.
Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est des moins grands peintres. Ils ont un truc tellement original qu'on peut pas les rayer de la carte, vous voyez.
C'est Woody Allen, par exemple, sera un original. Parce qu'il dit lui-même, Woody Allen, qu'il n'est pas Bergman,
ouais,
il n'est pas Fellini.
Oui, il est un peu là-dedans. Et puis il a son style, vous voyez. Ouais. Avoir son style, c'est très important pour le grand public. Vous voyez, Botticelli, il a son style, c'est un original de ce point de vue-là. Pour moi, c'est pas aussi sublime que Raphaël, mais c'est pas grave. Archimboldo, dans son genre, il a tellement inventé un genre dans lequel c'est même pas qu'il est le meilleur, c'est qu'il est le seul.
Oui, c'est le visage composé avec des légumes.
Donc on peut même pas le comparer avec d'autres. Donc quelque part, il a son truc. Mais moi, je dirais même que, je sais pas, Hopper, c'est un original.
Edouard Hopper.
Tout simplement parce que c'est le seul peintre du XXe siècle qui s'est servi de la peinture comme on fait du cinéma. C'est-à-dire, je vois pas qui d'autre, en tous les cas, 40 ans avant tout le monde, c'est pas 60 ans avant tout le monde, peint des scènes qu'on aurait pu voir au cinéma. Ben, c'est son truc à lui. On ne peut pas lui enlever, disons.
Il y a dans votre classement à vous, très personnel, il y a les excellents suiveurs.
Ah oui, c'est en fait,
on peut être un suiveur, on en voit dans tous les domaines. Hein, au cinéma, il y a tous ceux qui ont imité Melville ou Sergio Leone. Mais un excellent suiveur, c'est quoi?
Ce sont les maîtres. Alors vous allez me dire, c'est un paradoxe. Comment est-ce qu'un maître peut être un suiveur? C'est que les génies dont je parle, ce ne sont même pas des maîtres. Personne ne peut les imiter. C'est ça le truc de ces génies. Alors que les autres, ce sont juste les maîtres. Mais en vérité, ils sont toujours à l'ombre de quelqu'un. Vous prenez n'importe qui. Je prends Van der Weyden. Il est assez connu dans la patte flamande. Il y a quand même quelqu'un à côté de lui, et 20 ans avant lui, qui s'appelle Van Eyck, qui est meilleur. Mais ils sont toujours à l'ombre de quelque chose. Vous voyez, je pense à Delacroix. Delacroix, si vous regardez un par un tous les tableaux de Delacroix, il y a toujours un tableau de Rubens ou un tableau de Géricault qui en gros est meilleur. C'est un problème, vous voyez. Donc ils sont excellents, mais ils sont à l'ombre de Pissarro, pour prendre quelqu'un, vous voyez, par exemple. Il est à l'ombre de Monet, il n'y a aucun doute. C'est-à-dire c'est tout pareil, en moins bien.
Mais alors très souvent dans votre spectacle, vous parlez de ceux dont la réputation est un peu usurpée. Vous attaquez quelquefois à Delacroix d'ailleurs.
Parfois oui, mais alors vous voyez c'est tout le problème, c'est qu'en fait tous les peintres sont mauvais. Si on est billes en tête avec Léonard de Vinci, Pontormo, Dürer, etc. Personne n'arrive à la hauteur. Alors je n'ai pas de liste à faire pour dire mauvais peintre, ce serait même prétentieux. Par contre, j'ai une liste à faire pour dire mauvais peintre qu'on croit bon. C'est-à-dire, ce sont les fameuses réputations usurpées. Vous voyez, pour moi, Modigliani, c'est le cas. Je ne comprends pas son succès. Chagall, Picabia, je le disais tout à l'heure.
Mais ça va fâcher quelques-uns de vos spectateurs. J'aime Modigliani, par exemple.
Mais oui, c'est un problème, c'est un sketch. C'est le sujet d'un sketch que fait David Castello-Lopez, qui n'est connu que des jeunes dans mon show, là, qui dure 4 minutes ou 6 minutes, et qui dit, les gens à qui Hector dit Modigliani est mauvais, ils le prennent mal, parce qu'ils ne sont pas fiers de Modigliani, ils sont fiers de leur jugement sur Modigliani. Et donc je les vexe, donc je ne suis pas toujours démagogue.
Merci Hector Obalk d'être venu sur Europe 1.
À l'Olympia, ça me fout les jetons, pour tout vous dire.
Eh bien oui, j'imagine. L'Olympia, voilà. C'est donc le dimanche 13 juin à 14h et à 18h. À 18h, c'est complet, oui, mais il reste 14h. Et
beaucoup.
Puis après, vous serez à Avignon, parce qu'après tout, puisque vous êtes le premier critique d'art à être à l'Olympia, autant que vous soyez aussi le premier à Avignon.
Merci.
Europe 1.
C'est arrivé demain, se termine. On se retrouve samedi prochain. Dans quelques minutes, ce sera le grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, présenté par Aurélie Herbemont. Bonjour Aurélie, quel est le programme?
Bonjour, notre invité ce matin, c'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. On parlera de cet accord hier au G7 à Londres sur un impôt mondial minimum de 15% sur les sociétés, de la reprise et puis de la réforme des retraites qui revient dans le débat.
Merci Aurélie, bonne émission.
Merci.